Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 1er. Évangile de Luc, c'est sur la pêche miraculeuse, vous connaissez bien ce passage. Et je vais vous parler ce matin d'un sujet qui me tient à cœur, et je pense que ça va vous apporter et vous servir ce matin. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Comme il se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Alors j'ai donné un titre à mon message ce matin, c'est la nature de la foi qui sauve. Et vous allez comprendre au fil de cette prédication ce matin, pourquoi je vous ai pris ce titre. Il peut paraître surprenant, mais il n'est pas du tout exagéré. Parce qu'il y a dans notre monde actuel diverses sortes de foi. Il y a la foi scientifique, il y a la foi philosophique, il y a la foi économique, il y a la foi sociologique, il y a la foi athéiste. Aussi surprenant que ça puisse paraître, nos athées ont la foi. Il y a la foi religieuse, visible par la multitude des religions qui sont de par le monde. Il y a la foi divinatoire, avec les horoscopes qui passent à la radio, à la télévision et sur les journaux. Et il y a la foi satanique. Il y a dans ce monde toutes sortes de foi. Et vous savez, il faut bien que vous sachiez que toutes ces sortes de foi-là s'appuie sur l'homme, uniquement sur l'homme et non sur Dieu. Elles ont aucun pouvoir d'ouvrir le ciel. Toutes les fois qui sont dans le monde, et j'en ai certainement oublié, la foi en l'homme, j'ai oublié celle-là. Toutes ces fois-là s'appuient sur la puissance humaine et elles n'ont aucune capacité de conduire les hommes dans le royaume éternel. Il n'est pas rare d'entendre dire aujourd'hui que ce que les hommes croient importe peu, pourvu que l'on soit sincère ou qu'ils soient sincères dans leur démarche. Vous avez jamais entendu cela? Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus faux que cela. Selon cette façon de penser, il n'est plus utile que les juifs, les musulmans, les bouddhistes et toutes les autres religions, il n'est plus utile que ces gens croient à la mort de Jésus-Christ pour être sauvés, oubliant que Jésus a formellement déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, écoutez-moi bien, aujourd'hui je pense qu'il y a un message de révélation qui va venir dans votre cœur. Il y a des prédicateurs qui osent nous dire cela. Il y a des prédicateurs qui viennent dans les églises nous dire « Les Juifs peuvent être sauvés en dehors de la foi, dans la mort de Jésus. » Alors il faut qu'ils relisent leur Bible. Il faut que ces gens aillent dans la lettre aux Romains au chapitre 9 et voir l'apôtre Paul pleurer parce que les Juifs ne se sont pas soumis à la justification que Dieu leur donnait gratuitement, mais ils ont voulu établir leur propre justification. Je ne sais pas si c'est le cas de quelques-uns au milieu de nous, mais ne pensez pas que le Seigneur vous acceptera dans le ciel parce que vous aurez préparé votre évangile. Il y a un évangile. Et notre foi doit pouvoir se focaliser sur son évangile. Mais savez-vous que même au sein de notre Église actuelle, Église du 21e siècle, la foi spirituelle est souvent pervertie sous le masque de l'hypocrisie. Vous savez ce que c'est l'hypocrisie dans le mot grec? Je ne vous donne pas son mot, mais je vous donne sa définition. C'est une foi qui est fausse, une foi qui joue la comédie, qui porte masque afin de tromper son entourage. Vous vous rendez compte? Timothée était un garçon timide, peureux. Mais l'apôtre Paul lui dit, j'ai trouvé en toi la même foi qu'en ta mère. Une foi sans hypocrisie, une foi sans masque. Aujourd'hui, par hypocrisie, eh bien plusieurs hésitent à annoncer la vérité biblique telle qu'elle est pour ne pas froisser la sensibilité religieuse des autres confessions. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes devant un grand dilemme. Vous pouvez mettre le mot œcuménisme, tout ce que vous voulez, mais c'est cela que l'apôtre Paul nous dit. Si je suis un chrétien, je dois parler en chrétien. Je dois dire aux gens ce que Jésus m'a demandé de dire. Malheureusement, encore aujourd'hui, la foi spirituelle a été perverti, ou plutôt la nature de la foi, la véritable foi, elle se pervertit en déclarant qu'un évangile sans parler en langue, sans miracle, sans guérison ou sans manifestation psychique est un évangile incomplet. Je l'ai entendu, mes bien-aimés. Je m'excuse de vous dire, je n'ai vu aucun miracle tels que résurrection des morts, boiteux qui se lèvent, des choses grandioses. Et ma foi est la même foi que Jean-Baptiste, qui n'a fait aucun miracle. Ma foi est la même que celle d'Élie, dont on a entendu parler dimanche dernier. Ma foi est la même que celle de Paul, que de Pierre, que de Jacques, et de tous les premiers chrétiens, qui se sont laissés clouer, brûler, assassiner. Alors qu'ils criaient, Seigneur, délivre-nous, le ciel s'est pas ouvert. Parce que Jésus avait dit, vous aurez de grandes tribulations si vous me suivez. Alors aujourd'hui, on dit cela. On dit, si votre évangile ne manifeste pas le parler en langue, les guérisons, les manifestations psychiques, c'est un évangile incomplet. Moi, je dis non. Si ces choses se manifestent, je dis gloire à Dieu. Mais elles doivent se manifester dans un but précis. À en croire certains, le monde ne peut être convaincu de son péché que dans la mesure où l'Église lui présente l'Évangile de puissance, accompagné de miracles, de signes, de prodiges. Pour amener les gens à prendre une décision pour le Christ, il faut les impressionner par de puissants témoignages de guérison et de délivrance. Il fut une époque, mes bien-aimés, où on faisait venir des prédicateurs, et chaque fois qu'ils venaient, ils rendaient leur témoignage. Le témoignage qu'ils apportaient était plus ou moins sanglant les uns que les autres. Je vous garantis que lorsque vous écoutiez ces témoignages, eh bien nous à côté, moi je disais, Seigneur, j'ai rien vécu avec toi. Je me suis culpabilisé, j'ai dit, je suis nul, je vaux rien. C'était formidable ce qu'ils apportaient, parce qu'ils avaient vécu. Et vous voyez, on a le sentiment aujourd'hui dans le monde que l'authentique foi va naître quand on fait vibrer la corde sentimentale. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qui convertit les gens, c'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix. Les adeptes de ce soi-disant évangile de puissance, cher à de nombreux charismatiques et évangéliques, ne produit que rarement d'authentiques chrétiens. Car ce ne sont pas les manifestations de puissance, les miracles ou les témoignages d'expériences bénies qui créent dans les âmes la foi qui sauve, mais l'écoute attentive de la parole de Dieu, la prédication de la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La foi naît de l'écoute de la parole du Christ. Voilà. La foi naît de l'écoute. Je suis né comme ça, moi. J'espère que vous êtes né aussi comme ça. Moi, j'ai pas vu les lépreux purifiés devant moi pour croire. Hein. Bon, ça se serait passé, j'aurais dit béni soit Dieu, hein, je conteste pas. Mais c'est rare. Hein. Alors, écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Parce que ce message que je vais vous apporter ce matin, je pense que ça va clarifier plutôt, ou réorienter notre conception sur la véritable foi qui sauve. Si les œuvres miraculeuses et les guérisons n'aboutissent pas à l'illumination de la conscience des pécheurs pour les amener à la foi qui sauve, alors nos campagnes d'évangélisation passent à côté de la véritable mission que le Christ a confiée à son Église, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Vous vous rendez compte? Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que veut dire le mot disciple. Quand le Seigneur Jésus a accordé un miracle, il l'a toujours fait, non pour épater la galerie. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Parce que ce que je vous dis là, c'est 40 ans d'expérience, 40 ans de culpabilité, 40 ans où je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment dans le bon message? Oui, quand Jésus a fait des miracles, il ne les a pas faits pour épater la galerie ou pour faire fructifier son propre commerce. Mais il visait toujours un but moral précis, en guérissant les aveugles. Il attestait qu'il était le seul à délivrer les hommes de leur cécité spirituelle. Voilà pourquoi il guérissait les aveugles. C'est ça, pas simplement pour les guérir. C'était pour montrer à ses apôtres que son ministère allait se poursuivre par le Saint-Esprit et ouvrir la cécité de ceux qui, dans le monde aujourd'hui, sont aveugles, ne comprennent rien à l'Évangile. En se déclarant la vraie lumière, il attestait qu'il était le seul à produire l'illumination des cœurs, l'Esprit étant dans la Bible la lampe de l'Éternel. Si elle est la lampe de l'Éternel et si Jésus est vraiment la lumière du monde, excusez-moi, si la lumière pénètre dans la lampe, alors l'illumination arrive. Les hommes et les femmes ont besoin d'être illuminés, vraiment, par le Saint-Esprit. En purifiant les lépreux, il attestait qu'il était le seul à guérir les hommes de leur souillure et de la puissance du péché. En ressuscitant les morts, il attestait qu'il était le seul à faire renaître les hommes à la vie spirituelle et éternelle. En déclarant qu'il était la vraie source d'eau vive, il attestait qu'il était le seul à combler les âmes desséchées et assoiffées de vérité par son esprit. En se déclarant la vraie manne, le vrai pain céleste, il attestait qu'il était le seul à procurer à l'âme humaine la nourriture utile à sa croissance spirituelle et à son épanouissement. Tous les miracles des évangiles cherchaient à atteindre ce but. Jésus n'est pas venu défendre son commerce comme aujourd'hui les gens le font. Il rassemble les hommes. Oh, je ne les critique pas, hein, je ne les juge pas. Croyez-moi, j'ai beaucoup d'amour et de compassion pour eux. Mais je voudrais vraiment qu'on se remette en question. Pourquoi faisons-nous nos campagnes? Pour notre Église? Nous avons tout faux. Nous faisons une campagne pour que Christ puisse, par son esprit, toucher les cœurs. Et si dans les campagnes, des miracles ont lieu, des prodiges ont lieu, des témoignages vraiment poussés par l'esprit ont lieu, et que ça pousse les hommes à la repentance, c'est-à-dire à les amener au pied de la croix, je dis nos campagnes réussissent. Quand Billy Graham, qui n'était pourtant pas un homme que j'appréciais beaucoup au niveau de la prédication, je peux être quand même très étonné que cet homme dans le monde entier a amené des millions d'âmes au pied de Christ et de sa croix. Aujourd'hui, on les amène auprès des prédicateurs. On les amène auprès des églises. Nous échouons, mes frères et sœurs. La vraie nature de la foi, ce n'est pas cela. C'est pourquoi je voudrais prendre le texte que j'ai lu, la pêche miraculeuse, et redéfinir avec vous ce qu'est la vraie nature de la foi. Tout d'abord, il y a une réflexion au préalable. Il est dit dans notre récit la phrase suivante. La foule se pressa autour de Jésus pour entendre, écoutez bien, la parole de Dieu. Oh, cette foule était différente des autres foules qui venaient toucher Jésus simplement pour obtenir les bienfaits de la grâce, simplement pour obtenir des guérisons. N'avez-vous pas lu avec moi dans l'Évangile que lorsque le Seigneur s'est aperçu que certaines âmes venaient que pour être nourries, pour vivre des choses extraordinaires, il leur a dit une phrase, mais qui bouleverse le cœur, « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. » Quelle a été la réponse de cette foule de 20 000 âmes? Quelle a été la réponse? Cette parole est trop dure. Et ils l'ont quitté. Dites la vérité aux âmes. Et vous allez voir. Faites une réunion, une campagne, en disant aujourd'hui c'est une campagne de repentance. Une repentance, une campagne où on laisse nos péchés au pied de la croix. Ne louez pas une grande salle, hein, à moins que l'Esprit vous l'ait dit. Hein. Vous risquez d'être vraiment, vraiment déçus. Cette foule-là était différente des autres foules. Elle avait été moralement préparée par le Saint-Esprit et elle venait à Christ non pour voir des miracles ou pour entendre de beaux et puissants témoignages, mais pour recevoir la parole de vie, cette parole qui engendre la vraie foi, qui sauve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je crois que c'est vrai. Je le crois sincèrement. Alors nous sommes en droit de nous demander ce matin quel fut le contenu du message que Jésus a donné à cette foule. Moi je suis curieux. Et je suis allé voir le Saint-Esprit, je lui ai dit Saint-Esprit, là je suis devant un dilemme. Cette foule s'est rassemblée pour entendre le message du Seigneur. Mais quel message? Qu'est-ce qu'il a dit? Et vous savez ce que m'a dit le Saint-Esprit? Il m'a dit, si tu prends le temps de lire la suite, voilà le message qu'il leur a apporté. Et là, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux spirituels se sont ouverts et je vais vous donner le contenu de ce message. Premièrement, Jésus montra à la foule que le premier pas de la foi qui sauve, le premier pas de la foi qui sauve, consiste à le laisser, lui Jésus, entrer dans la barque de notre vie, puis à nous éloigner du rivage de ce monde. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. La façon d'évangéliser nos contemporains actuellement diffère de la façon dont Jésus et les apôtres présentaient l'évangile. Aujourd'hui, on offre aux gens, écoutez bien, parce que je l'ai fait moi-même. Alors, j'ai du plaisir de me condamner dans mes erreurs. Parce que, au moins, j'ai le courage, parce que j'ai vécu ces erreurs, de dire aux frères et aux sœurs, ne faites pas la même erreur. Aujourd'hui, on offre aux gens la possibilité de faire une expérience. D'essayer Jésus, ça c'est vraiment à la mode. Hein. Est-ce que tu as essayé Jésus? C'est comme la drogue, t'essayes la drogue, t'essayes Jésus. Prends une décision pour lui. Accepte la prière du salut, comme si ça lui faisait vraiment, c'est des machins, des trucs, hein, des formules que nous faisons monter. Mais mes amis, nous nous voyons dans la parole de Dieu, aucune formule, rien. Les apôtres qui prêchaient l'évangile de la croix, vous avez qu'à relire le passage de l'apôtre Pierre. J'aurais pas voulu être juif ce jour-là. Parce qu'il n'a pas fait un témoignage vraiment à bousculer les consciences, les cœurs, à faire pleurer les gens sur les grands miracles. Il a dit, vous avez crucifié le véritable Messie. Il est venu, vous l'avez tué. Ouais. Il faut l'entendre, hein. Ils ont tous entendu. Et il leur a dit, voilà le message de la croix. Repentez-vous. Peut-être qu'ils étaient 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Nous ne savons pas. Ce qui est certain, c'est que 3 000 ont été bouleversés par la parole de Pierre. Voyez-vous, le message de la croix trouvera toujours l'écho dans les cœurs préparés. Tout le temps. Mais dans les cœurs qui ne sont pas préparés et qui viennent au spectacle, ben les gens viennent au spectacle. Et nous pouvons avoir nos shows évangéliques. Hein. Les Américains sont extrêmement doués dans ce domaine. Nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Moi, j'ai vu un jour une émission, je dis, ah, chapeau. Ah non, mais là, chapeau. Là, franchement, moi, je ne sais pas faire. Ah, il y a des gens qui sont vraiment nés pour ça. Hein. C'est des vendeurs. Ils vous présentent le truc, mais alors, c'est époustouflant. Et quand vous grattez un peu, vous dites, mais attends, les gens qui se lèvent là, les gens qui viennent, je voudrais voir le lendemain s'ils persévèrent encore dans la même foi. La plupart du temps, un jour j'ai lu un article, mais c'est quand même fou, est-ce que je vais vous dire. J'ai lu un article où il se passait dans une certaine église, vraiment des choses, mais alors sensationnelles. Il y a un petit enfant qui est venu, il n'avait pas de poignet, il n'avait pas de main. Et puis le prédicateur, c'était un groupe de chanteurs qui, américains, hein, je précise bien, ils n'étaient pas de chez nous, c'était vraiment de là-bas, de très loin, les Américains. Ils sont gentils, les Américains. Alors les chanteurs, c'était vraiment des soirées de miracles extraordinaires. Et ils ont prié pour ce petit qui n'avait pas de main. Puis le moignon a repoussé, la main a repoussé. C'est pas beau ça? Les journaux n'ont pas parlé, la télévision non plus. Et quand un prédicateur français a écrit à ce groupe pour leur dire « Donnez-moi l'adresse de ce petit », ils se souvenaient même pas qui était le gamin. Vous croyez que... Je pense qu'il fabulait là. Hein. Parce que s'il y a un mouignon qui repousse aujourd'hui chez quelqu'un qui n'a pas de main ou qui n'a pas de bras, on va s'en souvenir. Si mon frère se retrouve avec ses jambes, on va s'en souvenir. Là, c'est la radio, la télévision, les journaux, hein, c'est l'Élysée. C'est le Premier ministre et tout ce qu'on veut. Eh bien non, il ne s'en rappelait plus. Eh oui. Aujourd'hui, on fabule. On voit des choses, on les proclame et elles ne sont pas réelles. Oui, la prédication des apôtres a amené les gens au pied de la croix et à faire d'eux des disciples. C'est quoi un disciple? C'est plus qu'un apprenti et plus qu'un élève. C'est un être qui vit en étroite communion avec son Seigneur, qui écoute sa voix, le suit partout où il va et met en pratique ses instructions. C'est ça un disciple. Vous avez vu, si vous comprenez cette phrase, le tri que ça fait en entrant dans la barque de votre vie, de ma vie. Le Seigneur Jésus ne devient pas simplement le sauveur de mon âme, c'est-à-dire celui qui purifie mes péchés, qui ôte la condamnation, qui enlève le poids de la seconde mort spirituelle. Il est cela, ça c'est glorieux. Mais je ne peux pas couper en deux mon sauveur. Je ne peux pas le couper en deux, il y en a qui voudraient bien. Mais quand le sauveur entre dans la barque de notre vie, il vient aussi le Seigneur de notre vie, bouleversant et transformant le cours de notre existence. Par l'effusion de sa sainte vie dans notre âme, il produit une véritable métamorphose. Tous nos buts de vie sont remis en cause et prennent une autre direction. Vous êtes passés par cette repentance, mes frères et sœurs? Ou vous venez dans l'église chanter avec nous des cantiques, vous avez peut-être pris l'eau du bain, vous donnez peut-être votre argent, mais regardez la parole de Dieu, elle est claire, elle est formelle. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le paradis. C'est même pas ceux qui vont dire, vous avez vu la carte de visite, miracle, prodige, don spirituel abondant, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Hein, quelqu'un qui a vu Jésus entrer dans sa barque, eh bien c'est quelqu'un qui à un moment donné, il prend conscience que Jésus est là, il se retire un peu du rivage du monde. C'est ce que Paul a écrit, je vous le donne le texte, c'est pourquoi le chrétien est invité à s'éloigner du rivage de ce monde et à ne plus se modeler, à se conformer d'après la mentalité. Ou à la façon de faire de Monsieur Tout-le-Monde, mais à rechercher par son intelligence éclairée par le Saint-Esprit quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Hier, il y avait une dame qui était interviewée à la télévision, mais Jésus ne capte pas notre esprit. Jésus entre dans notre esprit. Jésus s'installe dans notre cœur. Et le Joël Loubia que vous voyez là, il est comme ça. Il est comme ça. Et Christ est assis sur le trône de ma vie. Si c'est toi qui diriges ta vie et que Christ est à genoux, il y a un problème. Hein. La véritable nature de la foi, c'est qu'il entre en nous. Et il a dit à cette foule, voilà, je vous enseigne, je suis venu pour entrer en vous. Je me suis incarné dans un corps humain. C'est ce qu'il leur a dit, mes bien-aimés. Et il leur a dit, maintenant, par mon esprit, je vais m'incarner en chacune de vos vies. Et moi qui suis le grain, je vais revenir en vous, en chacun. C'est complètement différent que d'être adepte d'une église. Combien l'église a besoin de prêcher à nouveau le pur évangile. Car un évangile déformé ou un évangile complaisant ne produira jamais de vrais disciples, mais plutôt des chrétiens de nom, des adhérents ou des membres appartenant à un club religieux. Un évangile déformé et complaisant offre en réalité une fausse sécurité à ceux et celles qui y adhèrent. Pourquoi ? Parce qu'il dissocie le sang de la vie de Jésus. Je vais vous dire quelque chose qui va vous bouleverser. Vous allez dire, c'est peut-être un faux prédicateur. Pensez ce que vous voulez, mais ouvrez la Bible et regardez. La purification par le sang de Jésus ne me conduira pas au ciel seulement. Non. La purification par le sang de Jésus m'ouvre la porte du ciel pour que l'Esprit descende en moi et que la vie du Christ soit reproduite en moi. Si j'accepte Jésus comme sauveur, mais que je refuse absolument qu'il dirige ma vie, je risque d'avoir une énorme surprise quand il va revenir du ciel pour nous chercher. Je vous le dis avec amour, une énorme surprise. Si c'est toi qui dirige ta vie, si c'est toi qui la commande, si c'est toi qui ne fais que ce que tu veux, alors il est temps peut-être de revenir en question et se dire, mais est-ce que j'ai la vraie foi? Est-ce que Christ est en moi? C'est important ça. Au jour du jugement, l'accès dans le royaume de Dieu vous sera accordé que lorsque Dieu verra les deux dons de la grâce, le sang de son Fils et la vie de son Fils. Ou si vous préférez, la grâce et les fruits de la grâce. Si je vous donne un exemple qui est dans la Bible, c'est Jésus qui en a parlé. C'est pas moi, mais je suis obligé de dire ce qu'il a dit. Vous connaissez ce bonhomme qui devait une dette incommensurable à son maître. Il ne pouvait pas la payer. Il demande compassion, miséricorde. Et le roi lui remet entièrement sa dette. Vous connaissez la suite. Il va voir un de ses copains, ou peut-être serviteurs, qui lui devait mais alors vraiment une goutte d'eau, je ne sais pas, alors disons à 10 euros, ou 20 euros, 100 euros. Lui, il en devait des milliards. Oui, c'était à côté, c'était la quiche nette. Eh bien, il a dit au gars, si tu ne me payes pas, je te mets en prison, toi, ta femme, tes enfants. Et il l'a fait. Il l'a fait. Les serviteurs sont venus voir le roi, il lui a raconté l'histoire, il a reconvoqué le gaillard. Il lui a dit, tu ne m'as pas supplié de te pardonner, de te remettre la dette? Il a dit, oui. Je l'ai fait gracieusement, oui. Et pourquoi ? Tu n'as pas agi de même envers ton prochain. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Le roi a mis cet homme en prison, c'est-à-dire qu'il lui a remis exactement la dette qu'il devait. Et si le Christ ne trouve pas en nous les fruits de la grâce, les fruits du pardon, eh bien, croyez-moi, mes frères et sœurs, ce message répondra. Il y a une télévision qui va s'ouvrir dans le ciel, vous le réentendrez. Faut pas avoir peur dans ce que je vous dis. Simplement, avoir le courage de s'analyser. Il est dans ma barque, s'il est dans ma barque, c'est plus moi qui conduis la barque, c'est lui. Et s'il dirige ma barque, il sait parfaitement ce qu'est le mieux pour moi. Il faut la réconciliation et il faut aussi la consécration par la vie du Saint-Esprit. Deuxièmement, Jésus montra à cette foule le second pas de la foi qui sauve. Ça, c'est un pas, on n'aime pas trop en parler, mais moi, je l'ai trouvé dans ce récit. Ce second pas de la foi qui sauve consiste à mettre en pratique sa parole. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Si le premier pas de la foi consiste donc à laisser Jésus entrer dans la barque de notre vie, le second pas va consister à détacher les amarres qui nous liaient à ce monde pour que nous puissions avancer en pleine eau de la parole de Dieu. La foi authentique n'est jamais passive, elle est toujours active. Souvenez-vous de ce passage du Seigneur. Pourquoi, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est ça la clé. Il leur a dit, j'entre en vous, je vais me réincarner en vous, mais maintenant, mettez en pratique ma parole. Allez-y, vous connaissez ce groupe de chrétiens de l'époque qui croyaient en lui. Alors ils disent à Jésus, nous croyons en toi. Et bien il a dit, si vous croyez en moi, il n'y a pas de complication, j'accepte. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et eux ont dit, nous esclaves, mais t'es fou. Voilà le problème des êtres humains. Le Christ est venu nous rendre libres. Mais avant de nous rendre libres, eh bien, il commence par nous pardonner. Il commence par nous réconcilier. Il commence par nous déculpabiliser. Il nous délie de tout ce qui nous tenait enchaînés pour qu'ensuite nous puissions librement vivre dans l'amour. Vous allez le voir dans peu de temps. Il faut joindre à la confession le changement de style de vie. Si nous ne voulons pas nous entendre dire au jour suprême, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il y a une parabole qui est très étrange dans la Bible, c'est les 10 vierges. Et vous connaissez, hein? Il y en a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les folles ont voulu aller acheter. Elles venaient dans l'église pour se remplir d'huile. Et Dieu est tellement bon qu'il remplit d'huile. Seulement l'huile, elle se consume. Jamais ils avaient été eux-mêmes dans une communion de disciples, dans une intimité où l'huile coule sans cesse et en permanence. Puis un jour, ils sont tombés sur des prédicateurs ou un prédicateur un peu comme moi, un peu bizarre. Et ils ont dit, oh là là, là 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 là, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Puis ils sont partis dans la nature. Et comme ils ont des vases et l'huile, eh bien, c'est totalement vidé, il n'y a plus d'huile. Jésus revient, il sonne, il appelle, il ne peut pas allumer. Ah, ils vont en acheter chez ceux qui en vendent, vous voyez, ils allaient acheter de l'onction. On n'achète pas de l'onction. Je vous le dis, le jour où ça va aller mal, il n'y aura plus de rencontre, hein. Il n'y aura plus de grands prédicateurs qui prendront les avions pour venir nous enseigner. Il n'y aura plus d'Américains, ni d'Australiens, ni d'Africains. Si tu n'as pas ta Bible et si tu n'as pas l'amour de la vérité, attention, la puissance de mensonge se répandra sur le monde et va séduire beaucoup de gens. Jacques, le frère du Seigneur, n'a-t-il pas déclaré, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter par de faux, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques ira même jusqu'à remettre en cause une foi qui ne peut montrer sa véracité par des actes concrets de l'amour. Cette foi-là, dit-il, elle est inutile, elle est morte en elle-même et elle est incapable de sauver. Il a écrit la lettre pour qui? Pour des païens. Il a écrit cette lettre pour des gens qui confessaient appartenir au Christ et il leur rappelle cette vérité. Vous lui appartenez, alors vivez! Alors laissez sa vie sortir de vous. N'allez pas montrer au monde que vous croyez au Sauveur en faisant tout le contraire de ce qu'il dit l'Évangile. C'est ça qu'il leur a dit. Alors les gens étaient un petit peu secoués. Hein. Se pourrait-il que le Seigneur adresse à plusieurs personnes affirmant être d'authentiques chrétiennes le même reproche qu'il a adressé au peuple d'Israël en son temps? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si Jésus est réellement en nous par son esprit, alors le premier fruit qui doit être visible, ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. Or, le fruit de l'esprit, dit Paul, c'est l'amour. Oh, non pas l'amour amitié, non pas l'amour sentimental, mais l'amour agapé. Cet amour qui, dans la traduction du mot grec, veut dire avoir le souci du bien d'autrui. Être vraiment converti, c'est en tout premier lieu, ça c'est le commencement de la vie chrétienne. C'est d'abord aimer le Seigneur, de tout son être, de tout son esprit, de toute sa pensée, toute sa force. Puis aimer son œuvre, aimer son Église, aimer ceux qui ont été engendrés de lui. C'est le commencement de la vie chrétienne. Il y a des gens qui se disent chrétiens, ils n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas ça. Quand vous leur parlez des églises, ils disent, oh, ça me fatigue. Les églises me donnent mal à la tête. Quand vous leur parlez des frères et sœurs, oh là 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 là, il n'y a que des vieilles grand-mères ou des vieux grands-pères. Ils trouvent toujours des excuses pour ne pas se joindre à l'église. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Jésus qui a préféré nous mettre dans des endroits de protection, mes frères et mes sœurs. Et ensuite, la progression qui se fait naturellement lorsqu'on est vraiment un authentique converti, c'est qu'on va apprendre dans l'église à aimer son prochain. On va prier pour lui. Et on va chercher à gagner, on va chercher à les gagner pour la cause de l'évangile. J'ai été sauvé par la prière de maman et de ma grand-mère. Et quand j'ai été sauvé, je me suis retrouvé, vous savez, des fois dans des réunions, ma femme peut vous le dire, on était deux personnes, trois, des fois quatre. C'était des mamies, parce que c'était le matin, le pasteur m'envoyait le matin, il faisait me faire mes armes. Il me dit, va t'occuper de la réunion de prière, la grande réunion de prière. Et j'arrivais, on était trois. Mais on touchait le ciel. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu des mamies prier comme ça. Et ça présentait au Seigneur. Eh oui, mais les églises grandissent grâce aux prières des mamies. Que Dieu garde nos mamies, parce qu'elles sont tellement précieuses. Et là, j'ai appris à aimer mon prochain. Je vous avoue, ça c'est personnel, je ne vais pas le tirer de la Bible, mais c'est personnel. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Dieu est intervenu dans la vie de plusieurs, par des bénédictions, mais incroyables. Ces mêmes personnes extraordinairement bénies n'ont même pas l'amour pour venir prier pour les autres chrétiens qui ont des problèmes. Ça me crée un cas de conscience. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Les gens du monde, je vous le dis ce matin, les gens du monde seront convertis que si nous venons devant le Seigneur et que nous devenons ouvriers avec lui. Il n'enverra ni les anges, ni les archanges, rien. Mais si nous lui disons, comme on le fait en ce moment, le jeudi soir, Seigneur, Seigneur, envoie le Saint-Esprit, prépare les cœurs, puis envoie-nous pour toucher les âmes préparées, comme cette foule que Dieu avait préparée pour Jésus, il va le faire. Et quand on vient prier ensemble pour nos bien-aimés qui sont malades, on le fait par amour, on a le souci du bien d'autrui. Vous comprenez bien, et je vous l'apporterai un jour, que c'est un grand paradoxe, l'amour agapé. C'est que pour le vivre, il faut que je crucifie mon moi égoïste. Il faut que je crucifie mes aises. C'est tellement facile de dire « je prie chez moi ». Oui, alors tout le monde peut le faire. Mais Jésus a dit « je réunirai mon Église ». Or l'Église, dans le mot grec, c'est un rassemblement de personnes qui sortent de chez eux et qui se rassemblent dans un lieu déterminé pour être ouvriers avec lui. C'est ça l'Église. C'est pas pour venir faire plaisir au pasteur ou pour dire « oh là 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 là, ici on a un enseignement qu'on n'a pas ailleurs ». Non, c'est pour être près du Christ, près de lui et lui dire « je viens comme ouvrier, je viens comme ouvrière, qu'est-ce qu'il faut faire comme boulot? Qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur ?» Il y a une sœur qui m'a dit ça tout à l'heure, « qu'est-ce qu'on fait pour l'évangélisation ?» Moi c'est tout ça tellement formidable. Et enfin, la troisième progression dans cet amour, quand on est vraiment converti, c'est arriver à s'aimer soi-même. Il faut du temps. Hein. À s'aimer soi-même en ne souillant pas notre personnalité, ce nouveau temple du Seigneur. Si vous prenez le fruit de l'esprit, dans Galates, il parle de ces trois choses. L'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain, l'amour envers nous-mêmes. Oui, on a écrit beaucoup de livres sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Mais ce sont des livres psychologiques. On dit aux gens, tu t'aimes pas assez, mais mon œil, mais où ils ont été trouvés ça? Mais nous nous aimons trop, trop. Je m'aime trop. C'est pour ça que je dis à mon moi qui m'aime trop, ce soir, oublie-moi, je vais penser aux autres. C'est ça la vie chrétienne. Donc il leur a dit cela. Il leur a dit, mettez en pratique ma parole. Et ne vous contentez pas de l'écouter. Alors, même si comme le futur apôtre Pierre, il arrive des raisonnements contraires dans notre esprit, parce qu'il avait pêché toute la nuit, c'était un pro. Les poissons, ils savaient qu'ils montaient la nuit. Ils étaient professionnels, et voilà qu'un pauvre gars monte dans sa barque et lui dit, « Eh bien maintenant, tu vas jeter en pleine matinée, après le brouhaha que j'ai fait, après avoir tapoté dans la barque, tu vas jeter vos filets et tu vas voir ce que tu vas faire. » Il a dit, « Seigneur, alors là, c'est impossible. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » S'il y a des raisonnements donc contraires qui s'élèvent devant certains faits réels de la vie, ou par rapport au sacrifice à consentir pour suivre Jésus, je vous le dis par amour ce matin, d'après la parole du Seigneur, osez obéir au Seigneur en mettant en pratique sa parole. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez perdre est infiniment inférieur à ce que vous allez gagner. Et c'est là que le diable trompe les chrétiens. Il leur dit, ouais, tu vas perdre ton temps, il y a un match de foot, il y a un machin, et t'as vu le feuilleton, t'as vu le truc. Moi, je dis aux chrétiens qui aiment bien la télévision, je vous donne une combine. Si vous voulez venir prier avec nous le jeudi soir, achetez-vous un tuner, un disque dur. Clac, 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 tu programmes, t'as ton émission quand tu rentres. Faut pas être malin, hein, faut le faire, hein. Je suis tordu, moi, hein. Je comprends qu'on aime un match de foot ou qu'on aime certaines choses. C'est pas interdit, ça ne nous condamne pas. Mais souvent, la plupart des gens, eh bien, disent, ils font le choix de leur vie parce que il y a autre chose. Il y a plus important. Mais plus important, c'est le Seigneur. Parce que tout ce que je perds là, je peux plus le rattraper. Mais tout ce que je perds réellement pour lui est infiniment peu par rapport à tout ce que je vais gagner. Troisièmement, et j'en arrive à la fin de mon message, Jésus montra à la foule que l'obéissance à sa parole donne accès au miracle divin. Ayant jeté leur filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Quand la conscience, notre conscience est éclairée par la prédication de la croix, et que nous mettons en pratique la parole de Dieu, même si cela nous coûte, alors je peux vous dire, vous certifier de la part du Seigneur, que le miracle va venir aussi naturellement que vient la clarté du jour lorsque le soleil apparaît. C'est mathématique. Nous voulons voir le miracle avant. Christ a dit à cette foule, laisse-moi monter dans ta barque, vis ma parole, et je te garantis que tu verras le miracle. Un jour, c'est arrivé sous Malachie. Les croyants de l'époque, peut-être par crise financière, je ne sais pas, avaient délaissé le temple de Dieu. Ils ne donnaient plus leurs dîmes et leurs offrandes. Que s'est-il passé? Les Lévites ont été chercher du travail. Et il faut bien manger, hein. Et le temple de Dieu a été déserté. Et Dieu s'adresse à Israël. Tu me trompes. Tu es en train de me tromper. Tu cherches, tu pries pour que j'ouvre les écluses du ciel, afin que vous ayez de la nourriture, mais tu es en train de me tromper. Oh, ils ont dit, mais comment, nous, on te trompe? Oui, vous me trompez. Parce que vous avez délaissé mon temple. Et vous savez ce que Dieu a osé dire? Alors là, écoutez, moi, je tombe à la renverse. Mets en pratique ma parole. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Moi, Dieu, je te dis de m'éprouver. Ose m'éprouver. Mets en pratique ma parole et tu verras. Si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. C'est pas vrai? C'est incroyable. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront, pas qui précéderont. Aujourd'hui, on entend cela quand on rend témoignage. On dit aux gens, t'inquiète pas, dis à Jésus, il va faire un grand miracle. Mais c'est un mensonge. Si quelqu'un est malade et qu'il est préparé dans sa maladie pour croire et que tu le guéris, tu l'envoies en enfer. Moi, je n'impose pas les mains aux malades comme ça. Je leur dis au départ, attendez, vous connaissez le Seigneur? Je veux bien que le Seigneur vous bénisse et tout, mais en premier, vous avez quelque chose qui n'est pas en règle. Mais revenons au pur évangile, et si la personne vraiment se repent, alors vous pouvez prier pour elle et la voir totalement délivrée. Mais dans nos campagnes d'évangélisation, on a vu, parce que la foi fait des grandes choses, on a vu des gens vraiment être visités et bénis par le Seigneur, puis reprendre leur guérison, comme les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Ça se voit partout. Alors on dit, oui, l'amour de Dieu est incommensurable. Attendez. Il nous a délégué une autorité de pouvoir. Je dois faire attention comment je l'exerce. J'ai dit un jour à quelqu'un qui vivait une situation catastrophique, une situation terrible, j'ai osé lui dire, parce que je l'ai vécu, et si dans cette situation, c'est le drame qui se produit, est-ce que tu aimeras encore Jésus? Il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu demandes ça? J'ai dit, parce que tu ne peux pas demander au Seigneur quelque chose si tu ne règles pas cette question. Il m'a dit, tu l'as réglé? Oui, je l'ai réglé. Je lui ai dit, quand j'avais mon petit Lucas malade, qui était à la mort, j'ai dit, Seigneur, si tu me le reprends, je serai vraiment, vraiment déçu, mais ça ne changera rien, mon amour pour toi. Il y en a qui osent lui dire dans la prière, Seigneur, si tu me fais ça, alors Seigneur, moi, et toi, tu vois, eh ben, l'Église hein, et la Bible, eh ben, c'est de côté. Hein. Alors, si tu veux l'offrande, Seigneur, hein, si tu veux, le Seigneur doit dire, il n'y a pas beaucoup d'amour derrière. Faut régler ça, hein. Faut régler ça, mes bien-aimés. Mais attention, je le dis aussi avec un grand respect. Ceux qui cherchent absolument à obtenir un miracle sans soumettre leur volonté à la volonté divine, ils risquent de vivre la même expérience que certains Israélites dans le désert, qui, mécontents de la manne, ont crié à Dieu, « Donne-nous de la viande à satiété. Donne-nous, donne-nous. » Dieu leur a dit non. « Donne-nous, donne-nous. » Et Dieu leur a dit, « Vous voulez ? Allez, venez les oiseaux. » Et ils sont tombés, ils les ont mangés crus. Beaucoup sont morts, et la plupart ont eu la consomption dans leur âme, c'est-à-dire le dépérissement. Frères et sœurs, faisons attention de ne pas demander au Seigneur quelque chose qui pourrait nous être préjudiciable. Mais toujours, Seigneur, relève-moi, guéris-moi, mais je veux d'abord vivre ta parole. Si tu mets en pratique ma parole, il a dit à ces gens-là, à cette foule, si vous la mettez en pratique, je vous garantis, vous allez me mettre à l'épreuve, parce que je l'ai dit dans ma parole, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Et enfin, je termine par ce passage. Jésus montra à la foule, c'est le quatrième point, que la nature de la foi qui sauve inclut toujours un travail pour sa gloire. Désormais, il dit à Simon-Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre leur foi à la manière de Robinson, c'est-à-dire en dehors des églises et de la communion fraternelle, s'illusionnent grandement, car il est écrit quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Celui qui se tient à l'écart de ses frères et sœurs cherche ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Proverbe 18, verset 1, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit. Et il y a des gens, et j'ai posé la question un jour à quelqu'un, « Tu vas où le dimanche ?» Il m'a répondu gentiment, « Je suis à la maison avec ma Bible. » Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Sois dans la maison de l'Éternel avec ta Bible. C'est mieux. À moins que tu sois malade, hein, comprenez bien. À moins que tu sois dans une maison de retraite, que tu ne puisses pas sortir et que tu regardes Internet. Parce que, voilà, tu as des impossibilités. C'est très très bon. Mais voyez-vous comment l'esprit de l'homme est tordu. Et les gens qui s'en vont s'imaginent être vraiment chrétiens. Mais je prie pour que Dieu les reprenne dans leur conscience. Parce que quand il va paraître du haut des cieux, là, il risque d'y avoir de grandes surprises. Il faut prévenir les gens. Si nous sommes devenus membres du corps du Christ, nous avons obligatoirement reçu un appel et une qualification pour un travail à accomplir à la gloire du Seigneur, soit dans son Église, soit dans le monde. Il y a des chrétiens dans le monde hein, qui ont des places de responsabilité. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais vous donner ma conclusion de ce message. Elle tient dans cette phrase, « Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Cette phrase ne veut pas dire qu'ils négligèrent leur devoir civils, professionnels ou familiaux, pour vivre par la foi. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais elle montre que les futurs apôtres définirent les bonnes priorités et ils laissèrent toutes les choses inutiles, comme les amitiés néfastes, comme les liens familiaux exagérés, comme les activités surabondantes, susceptibles de mettre un frein à notre consécration. Marie avait choisi la bonne part et Marthe s'excitait. Et Jésus lui a dit, mais arrête, arrête un peu, tu me donnes le tournis. Ma grand-mère, elle disait le vire-vire. C'était son expression de grand-mère. Je ne sais pas où elle avait trouvé ça, mais chaque fois que je disais, mamie, comment tu vas? Oh là là, je le vire-vire. Ça voulait dire, ma tête tourne. Hein? Oh, en Suisse, ceux qui ont été en Suisse, ils savent, quand quelqu'un est excité, vous savez comment ils disent? Il tourne comme une hélice. C'est pas mal, hein? Alors moi, quand ils m'ont dit, parce que j'ai été quelquefois excité, et quand j'entendais mon frère Picard qui dit, mais Joël, tu tournes comme une hélice, ah bon? Je lui dis, moi, je tourne comme une hélice? C'était surprenant. Faites les bonnes priorités, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'ils ont fait. Je crois que ce message, je voulais vous l'apporter avec amour, je voulais vous l'apporter avec détermination, pour remettre, je dirais, peut-être les pendules à l'heure, et redéfinir ce qu'est la vraie nature de la foi qui sauve. Parce que je peux vous le dire, dans des églises, nos églises, il y a des gens qui n'ont pas la nature de la foi qui sauve. Ils sont comme, mais ils ne sont pas des vrais. Et tout se voit au niveau de l'amour. S'ils disent, aimez Dieu, je ne peux pas le rencontrer et délaisser mon église, délaisser mes frères et sœurs. Je ne peux pas le faire, c'est une impossibilité. Si j'aime Dieu, il me conduira vers ceux qu'il a engendrés, c'est-à-dire, évidemment, les chrétiens, les authentiques chrétiens. Réfléchissez à ce que je vous dis. Si vous osez vous remettre en question, analyser votre vie, eh bien, faites cela, parce que l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens. Il leur a dit, sondez-vous, examinez-vous pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi qui sauve. Il a osé dire ça aux Corinthiens. Pourquoi ? Parce que certains Corinthiens vivaient encore dans des péchés odieux de la chair. Certains Corinthiens avaient suivi le message de l'apôtre Paul et ils disaient, nous sommes sauvés, alléluia, nous avons le sang de l'agneau. Et Paul leur a dit, c'est bien, le sang de l'agneau c'est super, mais vous avez la vie de l'agneau? Cette vie, elle transparaît au travers de vous, oui ou non? C'est ça la clé. Et la vie de l'esprit, c'est une vie d'amour. Si vous faites cela, vous connaîtrez vous aussi votre pêche miraculeuse. Je peux vous demander de vous lever et on va prier ensemble ce matin avant de vous donner les annonces. Seigneur, que te dire en conclusion, sinon que ton esprit nous sonde. Il n'est certes peut-être pas facile d'expliquer ce qu'est la vraie foi qui sauve, parce qu'on bouleverse certaines conceptions, on dit certaines vérités. Ça nous dérange, c'est vrai Seigneur, mais tu nous reprends pour notre bien. Seigneur, nous sommes sur la terre et ta parole nous dit que nous sommes là pour nous exhorter, pour nous encourager, pour, Seigneur, nous remettre sur la bonne voie quand les choses vont pas, pour dire la vérité dans l'amour. Tu nous le dis, Seigneur, dans ta parole. J'espère ce matin avoir accompli ton travail, le travail que tu voulais. Je demande maintenant que ton esprit, Seigneur, passe dans tous les rangs, sur mes sœurs, sur mes frères, sur les jeunes, les moins jeunes, afin que ce matin, cette parole soit gravée dans leur conscience. Parce que ce que tu as prêché à cette foule ce jour-là, tu l'as démontré en t'adressant à Simon-Pierre. Ce que tu as prêché, il a fallu que Simon le vive. Et au travers de cela, ils ont compris qui tu étais. Seigneur, il y a un passage que je n'ai pas traité ce matin, parce que je le gardais pour la prière. C'est que Simon est venu se jeter à tes pieds. Il a été saisi de la sainte crainte de Dieu parce qu'il a compris que celui qui était là, dans sa barque, ce n'était pas n'importe qui. Seigneur, tu es en nous, tu n'es pas n'importe qui. Ton sang nous a lavés, a enlevé la condamnation, c'est fait, c'est acquis, mais on ne peut pas te diviser en deux. Tu es rentré en nous par ton esprit et tu nous as donné la vie et l'amour. Et tu nous demandes que nous vivions le fruit de l'esprit qui est l'amour envers toi, envers notre prochain et envers nous-mêmes. C'est tout un programme. Et nous avons besoin de toi pour cela. Alors bénis mes frères et bénis mes sœurs ce matin. Que ta parole descende dans leur cœur et que eux aussi, comme Simon-Pierre, puissent voir des grands miracles dans leur vie, des exaucements extraordinaires à la gloire de ton Saint-Nom. C'est ce que je demande, Seigneur. Amen.